deuxième émission cette semaine consacrée à l'éloquence chrétienne. Prêche, homélie, sermon, comment sont-ils préparés? Quel est leur but? Est-ce possible de rentrer dans une expérience de foi simplement par des mots et un discours? Les homélies sont-elles de simples constructions intellectuelles? Nous approfondissons ce sujet pour cette deuxième émission consacrée à l'éloquence chrétienne avec le Père Jean-François Noël, prêtre et psychanalyste.
Psy et spi avec le Père Jean-François Noël, Dialogue RCF.
Bonjour à tous et bonjour Père Jean-François.
Bonjour Sophie.
Merci d'être avec nous pour cette deuxième émission consacrée à l'éloquence chrétienne. Alors souvent dans l'opinion publique, on entend parfois ce terme de sermon pour parler d'homélie ou de prêche. On a vraiment l'impression que c'est un peu moralisateur. Bon, c'est un peu réducteur, vous allez me dire, mais pourquoi des homélies ou des prêches? Quel est l'enjeu spirituel finalement fondamental d'une homélie?
Permettez que je parte d'une expérience personnelle, mais comme auditeur.
Oui, je vous en prie, je vous en prie.
D'accord. Et je
comme dirais... auditeur d'homélie.
Oui, j'étais, parce que de fait, n'ayant plus de charge pastorale, il m'arrive de concélébrer et d'écouter les homélies, sermons, prêches des autres prêtres, où je, voilà, parfois je ne m'ennuie pas, mais parfois je m'ennuie. Mais comme j'ai dû ennuyer d'ailleurs plein de gens depuis 40 ans, je veux dire, je me renvoie à moi-même.
C'est pas un exercice facile, quoi, c'est sûr.
Non. Et là, je me suis, deux dimanches, c'était sur la parabole des lépreux. Il y a 10 lépreux qui demandent, enfin, vont être guéris. Les 9 autres, enfin, tous partent et puis un seul revient et rend grâce à Dieu, etc. Bon. Donc en fait la lecture classique que les gens ont de ce texte, c'est qu'il y en a qui sont pas qui n'ont pas de gratitude et d'autres est dans la gratitude et remercient Dieu. Voilà. Bon. Mais ça c'est la lecture morale classique qu'on a un peu systématiquement quand on lit trop rapidement un texte. En fait, il n'y a pas de morale. Jésus ne condamne pas du tout les 9 qui ne sont pas revenus. Bon. Par contre, il fait rentrer et c'est ça qui nous intéresse. Alors j'écoutais le sermon du prêtre, mais ça tombe bien, c'est pas le même diocèse, c'est loin d'ici, etc. Et je m'ennuyais parce qu'en fait, il paraphrasait. En fait, il reprenait le texte et le lisait. C'était donc moins concis, moins précis, moins ciselé que l'évangile. L'évangile est toujours d'une sobriété, c'est le mot à la mode, d'une sobriété de langage. Et on n'a pas besoin d'ajouter. Voilà. Et je m'ennuyais. Voilà, donc, voilà. Et puis à un moment, il a dit, oui, je me suis un peu égaré dans mon sermon. Et là, ça m'a réveillé, ça m'a intéressé. Qui reconnaissent, qui se soient égarés. Comme si j'avais besoin que quelque chose de lui se confie, s'ouvre. Et puis, je me suis dit, tiens, c'est drôle que le reste, je ne l'ai pas écouté, mais j'ai écouté et j'ai été touché par son aveu. Et alors après, je me suis posé la question, mais en fait, c'est quoi le but recherché? C'est vrai que comme prédicateur, en fait, je scrute beaucoup le visage des gens pendant que je parle. Alors ça c'est un vieux.
Alors pourquoi vous faites ça? Parce que vous avez besoin de leur assentiment.
J'ai besoin de ça. Alors, c'est très curieux parce que il y a des gens qui écoutent et qui ont l'air complètement inertes et il y a des visages qui sont absolument sans exprimer. Pourquoi vous vous sentez visé?
Pas du tout.
Non parce que ça c'est un vieil usage de prédicateur.
Disons que en tant qu'auditeur, je me disais ça m'arrive de le faire. Je pensais pas que ça se voyait autant.
Mais non parce que. Ça, c'est un peu déroutant des gens. Il y a des gens qui écoutent attentivement, mais qui ont un visage sans expression.
Ah, ça doit être un peu terrifiant, non?
Et alors, on a l'impression qu'ils s'ennuient. Enfin, c'est la fameuse histoire de De Vos qui parle à une assemblée. Et en fait, il n'y en a qu'un à qui ça pose problème. Et il sera qu'à la fin... Raymond De Vos. Hein.
Oui, j'ai bien compris.
Et à la fin, en fait, il s'aperçoit que l'autre est aveugle. Mais qu'en fait, depuis le début, il cherche son attention. Quoi. C'est du De Vos parfait. Enfin donc, moi, pour stimuler... Non, pas pour stimuler. Oui, pour stimuler, mais surtout pour qu'il y ait une interaction. Parce que sinon, c'est un public...
Il y a une interaction, alors, dans l'homélie, dans ce que
vous
dites.
Ah oui, moi, je cherche des visages expressifs et qui rendent... Il y a des gens qui font... Oh enfin, c'est très... Donc, je corrige, je m'adapte pour obtenir une... Mais il y a des gens qui écoutent et qui font aucune expression. Donc, c'est très, très, très déroutant. Mais surtout dans les assemblées qu'on connaît pas. Quand on connaît la paroisse, c'est un peu différent. Mais assemblée de mariage ou d'obsèques, c'est très intéressant de trouver. Ils savent pas, d'ailleurs, que ces gens-là sont repérés comme récepteurs observés. Voilà. Bon, bref. Alors, j'en reviens à la question du but... Donc le but, c'est quand même de parler à quelqu'un. À quelqu'un et quelques-uns, voilà.
Faire vivre un dialogue, une expérience
c'est pas,
de foi.
C'est pas un monologue, non. C'est un dialogue.
C'est un dialogue.
Alors, pour que l'autre, et on arrive au cœur de mon idée, pour qu'il vive une expérience de rencontre.
Alors, vous parliez de mariage, Noël. Alors, justement, je me demandais, est-ce qu'on prêche de la même façon le dimanche qu'à Noël ou pour un enterrement, des enterrements douloureux, on pense à des enterrements d'enfants. Est-ce que c'est toujours la même façon de faire ou il y a quand même des choses à prendre en compte?
Non, c'est toujours différent parce que le public n'est pas le même, le motif de la célébration n'est pas le même. Alors, c'est vrai que ça dépend des obsèques, mais les obsèques, les gens sont plutôt attentifs et ça dépend.
Puis vous avez peut-être des gens aussi qui sont éloignés de l'église, donc là, il y a peut-être quelque chose à jouer aussi.
C'est presque plus facile, oui, que des gens qui sont trop habitués, oui. Dimanche dernier, j'étais dans une paroisse que je connais pas, mais il n'y avait pas une attente. Enfin, j'ai pas vu une attente, pourtant c'était très bien ce que j'ai dit. Mais non, je plaisante. Enfin, moi, je trouve ça intéressant. J'ai pas vu qu'ils attendaient quelque chose à vivre pendant ce temps-là. Enfin, peut-être que d'ailleurs, je me trompe. Hein. Non, je pense à une histoire. C'était dans ma paroisse précédente à Istres où je recevais pour la deuxième fois une maman de 70 ans et qui perdait pour la deuxième fois un enfant. Voilà, donc c'était quand même très douloureux. Elle était vraiment, vraiment abîmée. Quoi. Alors, elle était accompagnée de ses filles qui étaient vivantes. C'était les deux garçons qui étaient successifs en un an ou un an et demi. Et on avait bien accroché avec cette dame. Enfin, on était rentrés en lien, voilà, une relation. Et au deuxième enterrement, donc je prépare, je vois bien qu'elle est quand même complètement très, 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 très blessée. Et à l'entrée de l'église, je l'avais vu la veille préparée, à l'entrée de l'église, je lui dis cette phrase tout à fait idiote. Comment vous allez? Et en disant cette phrase, je me dis en moi-même, mais qu'est-ce que t'es bête, quoi, Jean-François.
Oui, mais c'est une maladresse qu'on commet tous.
Oui.
Alors, en même temps, si on ne demandait pas des nouvelles, est-ce que ce serait mieux?
Alors elle me regarde décontenancée. Voilà, c'est toujours le problème des souffrances. C'est que voilà, ça ne sert à rien de dire à quelqu'un qui est en train de mourir d'un cancer, comment ça va? Bon. Eh bien, je me suis dit, dans mon homélie, je vais commencer par ça. Madame, je vous ai demandé à l'entrée des obsèques, parce que personne n'avait entendu, c'était entre elle et moi. Comment vous allez? C'était d'une grande maladresse et même c'était très blessant, parce que vous n'allez pas bien. Et ça, je le sais. Et j'aurais pas dû commencer. Parce que ça, en fait, c'était. Je me suis plus soigné moi-même, comme souvent, qu'écouter ce que vous êtes. Voilà. Alors, je dis ça non pas pour honorer mon aveu ou mon humilité, hein, j'ai essayé, mais c'était parce que il fallait que je parle au cœur de cette femme, voilà, et que pour que rentrer dans le cœur de cette femme, il fallait que je confesse que j'étais maladroit et que je serais toujours maladroit parce que quand quelqu'un souffre, on est toujours maladroit.
Donc il y a la psychologie qui est intervenue à ce moment-là.
Voilà. Au fond.
Il y a aussi...
Je dis ça parce que le cours... oui, pardon, je vous ai
interrompu. Non, allez-y.
C'est parce que ça me paraît intéressant. Quand j'ai dit à cette femme, comment allez-vous? Et je me suis entendu dire, comment allez-vous? Et je me suis dit, bon, tu fais une bêtise. Ben, t'es maladroit. Et ce cours entretien en moi-même m'a permis, je crois, d'être plus authentique et sincère pendant l'homélie. Enfin, je pense, parce que de fait, on est resté en lien ensuite. Donc. Et je pense que, tant du côté du prédicateur que du côté de l'auditeur, c'est ça qui doit se jouer. C'est que le prédicateur, il doit réfléchir à ce qu'il doit entendre ce qu'il dit et s'interroger sur ce qu'il dit, et non pas se glorifier ou Voilà, on a vu quand même des gens qui étaient...
On aura l'occasion d'y revenir dans la quatrième émission. Okay.
Et puis... La façon dont je parle doit permettre à l'autre d'avoir du temps et de l'espace pour s'interroger.
Alors, vous me faites une transition toute trouvée vers ma prochaine question. Alors, l'homélie et le prêche donc, doivent en quelque sorte impacter la foi des fidèles, mais qu'en est-il finalement de la foi de celui qui prêche? Ça rejoint un peu ce que vous nous dites. Quand vous préparez des homélies, est-ce que ça vous travaille intérieurement? Est-ce que ça nourrit votre foi?
Je connais des prêtres qui préparent toute la semaine leur homélie du dimanche quand même.
Est-ce qu'on s'évangélise soi-même? Vous voyez, c'est un petit peu l'idée.
Oui. Enfin, je ne sais pas si on s'évangélise, mais on fait une rencontre avec un texte. C'est vrai que je suis peut-être moins observant maintenant, mais je l'étais plus auparavant. Et je connais des prêtres qui, au fond, ont sur leur bureau les textes qu'ils vont commenter le dimanche suivant, toute la semaine. Et ils vont le prier, le penser toute la semaine. Parce que il faut qu'on rencontre à travers les mots quelqu'un, pour qu'on ait une expérience, et qu'ensuite on tente de traduire cette expérience, pour que l'autre l'ait. En fait, l'idée, c'est pas d'envoyer des idées, aussi brillantes soient-elles, c'est d'arriver à cette... D'ailleurs, c'est ce que dit le Christ dans... peut-être qu'on aura le temps de prendre un exemple d'homélie du Christ. C'est ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire qu'il faut qu'à l'issue de la prédication, quelque chose de l'expérience de la foi se soit agrandi, nourri, proposé. Qu'on sorte dilaté de cette rencontre avec le texte qui n'est pas qu'un texte, mais qui est une personne.
D'où le fait que vous n'aimiez pas le terme d'éloquence chrétienne.
Ben, ça ne situe que du côté du bien savoir faire. C'est sûr que si c'est dit par quelqu'un qui bégaye, ça va être difficile. Mais j'ai été ému par des sermons. Alors, il faut qu'il y ait un minimum d'audition possible de la voix. Mais je me rappelle très bien avoir écouté un vieux prêtre dont je me disais, oh là, ça va être terrible le sermon. Et en fait, sa douceur, sa distance, son respect. Souvent d'ailleurs, à la fois, c'est intéressant, un prédicateur doit être très présent à ce qu'il dit et en même temps assez effacé pour que le texte l'emporte sur son éloquence.
Alors une dernière question pour terminer cette émission. Alors qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation de l'éloquence moderne branchée quand on fait référence à un film, une série, une chanson à la mode? Est-ce que ça a sa place dans une homélie ou un prêche? Parce qu'on parlait finalement de comment plus de se baser sur la Bible. Est-ce qu'on peut aussi faire des digressions
Oui, alors oui. Je trouve ça, au contraire, si elles sont bienvenues et si elles n'empiètent pas sur... il y a des jeunes prêtres qui prêchent sur Star Wars, moi j'ai rien compris, donc ça marche pas. Ou les Seigneurs des Anneaux, ça non plus, ça marche pas. Mais de fait, il y a des paroissiens qui sont pas branchés Star Wars, ni... moi c'est d'autres références culturelles, mais oui, la culture, oui, la musique... Enfin, moi, j'ai entendu des compositeurs comme André Gouze chanter en plein milieu d'une homélie ou jouer une pièce de Chopin. Et c'était, en fait, hyper bien placé. C'était très, très, très intéressant. Tout d'un coup, une référence à une peinture. Enfin, d'ailleurs, la question que vous posez est beaucoup plus grave que vous ne croyez. C'est-à-dire que la culture doit être au service, la culture, la musique, la peinture, le bon cinéma doit être au service de cette actualisation de la parole et non pas comme un ajout artificiel.
Merci beaucoup, Père Jean-François Noël. Je rappelle que vous êtes prêtre et psychanalyste. On poursuit notre discussion sur l'éloquence chrétienne la semaine prochaine et nous nous demanderons comment les homélies et les prêches sont accueillis par l'auditoire. On vous donne rendez-vous mercredi prochain à 11h sur RCF. Merci de votre fidélité.
Psy Espy avec le Père Jean-François Noël, Dialogue RCF.